Alors, qu'elle y soit née ou non, Marie devait vivre la plupart du temps en Angleterre, dont elle connaissait bien la langue et la production littéraire. La mention de France peut enfin suggérer qu'elle était d'origine française, c'est l'hypothèse la plus communément retenue, ou bien encore qu'elle se sentait liée à la France par de fortes attaches symboliques. Pour identifier la personne de Marie, appelée depuis le XVIe siècle Marie de France, nous n'avons donc à notre disposition qu'un prénom très usité, une situation géographique imprécise, quelques hypothèses probables sur un lieu et une époque de composition, la cour d'Henri II Plantagenet, le dernier tiers du XIIe siècle, connue pour leur fécondité intellectuelle et littéraire. On a successivement reconnu en Marie, pour s'en tenir aux figures les plus connues, la comtesse Marie de Champagne, fille d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII, Marie de Boulogne, fille d'Étienne de Blois, abbesse de Romsey, la fille naturelle de Geoffroy d'Anjou, demi-sœur d'Henri II et abbesse de Shaftesbury, l'abbesse de Reading, où le manuscrit Harley aurait été composé, la fille du comte normand Galeran de Meulan, épouse du duc Talbot, et enfin, plus récemment, la sœur de Thomas Becket, abbesse de Barking, où a été composée la vie de Sainte Audrey, qui doit certainement lui être attribuée. Alors, malgré ces nombreuses tentatives d'identification, diversement approximatives ou convaincantes, Marie demeure essentiellement un nom, qui est inséparable du recueil dans lequel il s'inscrit et se diffracte, nom et texte se légitimant l'un l'autre réciproquement, à l'instar du nom des héros qui donnent leur titre aux lettres, qui rapportent et constituent leur histoire. Cet effet de légitimation concernant le nom de l'auteur apparaît essentiellement comme un effet de signature, c'est-à-dire comme un geste de revendication, qui constitue l'instance qu'il assume et l'œuvre à laquelle il s'applique comme indissociable dans leur singularité même. Les auteurs qui, comme Marie, mentionnent au XIIe siècle leur nom au seuil de leur récit, que l'on songe par exemple à Chrétien de Troyes, revendiquent une place au sein d'une généalogie d'auteurs, d'un cercle de mécènes ou d'une tradition de conteurs. Serait-ce pour s'en démarquer en revendiquant la valeur de leur entreprise. Tout en s'inscrivant comme un nom singulier dans les seuils des textes où il apparaît, le nom de Marie emmène ainsi avec lui d'autres noms, d'autres livres, d'autres récits et d'autres langues qu'il reprend et fait résonner autrement, notamment dans la pratique de la translation.
Alors, depuis le début du XIIe siècle, cette pratique, vous le savez sans doute, qu'on a assimilée à une première renaissance, permet à la toute jeune littérature en langue vernaculaire de conquérir son espace propre. En langue française, donc, à la cour d'Henri Plantagenet et sous l'impulsion de grands mécènes, des hommes et des femmes, histoire de l'Antiquité, littérature religieuse et didactique sont translatées, comme on disait, c'est-à-dire traduites en roman et remises au goût du jour, actualisées dans un décor, une esthétique et une éthique propre au second âge féodal, ce qu'on a appelé le second âge féodal. C'est dans ce contexte que Marie s'est chargée de reprendre d'abord un grand nombre de fables de l'Antiquité. Voici un exemple qui vous est, sous d'autres plumes, je crois, assez familier.
Le corbeau et le renard. On le dit, et c'est vrai peut-être, passant devant une fenêtre grande ouverte sur un cellier, un corbeau vit, émerveillé, des fromages qui s'égouttaient, bien alignés sur une claie. Il en prit un et s'en alla. Un renard qui passait par là vit le fromage, et ce renard eut envie d'en avoir sa part. À lui d'essayer de ruser pour voir s'il pourrait l'abuser. « Ah, Seigneur Dieu, le bel oiseau !» s'écrie le renard. « Qu'il est beau ! Au monde, il n'a pas sa pareille. De mes yeux, voir telle merveille, s'il a le chant digne du corps, il vaut plus que son pesant d'or. » Entendant clamer à la ronde qu'il est sans égal en ce monde, le corbeau se dit « Chantons donc, ne perdons point notre renom. » Il ouvrit le bec, il chanta, le fromage lui échappa et s'en vint tomber sur la terre où Goupil en fit son affaire, sans plus se soucier de ramage. Il aimait bien mieux le fromage. Ainsi va-t-il des orgueilleux, trop pleins d'envie d'être glorieux, qui les flattent et sait leur mentir, les fées sans peine les servir et ils dépensent follement pour prix de ces faux compliments.
Alors, mais Marie de France a surtout connu le succès littéraire, aujourd'hui comme en son temps. Pour ce recueil de lettres dont a parlé Mireille, elle a pris l'initiative de translater du breton, cette fois-ci, au français, nous dit-elle dans le prologue qui lui est attribué dans le manuscrit londonien. Une initiative qui se dit tout de suite sans précédent et qui connaîtra une belle postérité à la fin du XIIe siècle et pendant tout le courant du XIIIe siècle. Écoutons-en un extrait.
Celui qui veut se protéger du vice doit se consacrer à l'étude et s'efforcer d'entreprendre une œuvre exigeante. C'est là la meilleure façon de s'écarter du vice et de se libérer d'une grande souffrance. C'est pourquoi j'ai d'abord formé le projet de raconter en français une belle histoire tirée du latin. Mais ce travail ne m'aurait guère valu de considération. Tant d'autres l'ont déjà fait. Je m'intéressais alors aux laits que j'avais entendus. Je ne doutais pas, j'en étais même certaine, que ceux qui les avaient inventés et légués à la postérité les avaient composés pour conserver la mémoire des aventures qu'ils avaient entendues. J'en ai entendu raconter un certain nombre. Je ne veux pas les laisser tomber dans l'oubli. Je les ai mis en vers et en rime. J'y ai consacré bien des heures de veille.
S'il s'agit de raconter une bonne histoire, pour reprendre l'expression de Marie, le lait breton tel qu'elle nous l'a transmis est un récit en vers d'une nature très singulière, qui se distingue ouvertement de ses concurrents, en particulier du grand roman. Récit bref, le lait se présente d'emblée comme un récit qui part d'un événement lyrique, d'une chanson donc, pour raconter l'aventure qui l'a inspirée et les circonstances de sa composition. Le récit se présente donc comme la raison, l'argument, d'un chant qui lui préexiste et auquel il sert en quelque sorte de tombeau, comme ce reliquaire dans lequel un amant dépose le cadavre embaumé d'un rossignol dans le beau lait du Laostique, le rossignol en breton. Dans cette histoire d'amour, une jeune femme mariée tombe amoureuse du meilleur ami, ça arrive, et voisin de son mari. Une liaison s'établit au balcon, pourrait-on dire. À la nuit tombée, les amoureux se retrouvent en secret à la fenêtre pour parler d'amour. Bientôt, interrogée par le mari, la dame dit aller écouter chaque nuit le rossignol chanter. À cette image trop transparente, le mari répond par un geste qui tue, au sens propre de la métaphore, et met fin à la possibilité de l'amour. Un matin, il se présente devant son épouse et lui jette en plein cœur le cadavre du rossignol, que la dame enverra en message d'avertissement donc et d'adieu au voisin trop aimé.
Il se rendit dans les appartements de la dame. « Madame, fait-il, où êtes-vous ? Approchez, venez nous parler. J'ai pris au piège le rossignol, responsable de vos insomnies. Dorénavant, vous pouvez dormir en paix. Il ne vous réveillera plus. » Ces mots provoquèrent chez la dame tristesse et colère. Elle demanda l'oiseau à son mari, qui le tua par cruauté. De ses deux mains, il lui rompit le cou. Ce geste était des plus ignobles. Il jeta le cadavre sur la dame. Le devant de sa tunique, un peu au-dessus de la poitrine, en fut taché de sang. La dame quitte la chambre aussitôt. Elle prend le petit corps, fond en larmes, et maudit ceux qui ont piégé le rossignol, qui ont fabriqué pièges et lacets, car ils l'ont privé d'un immense plaisir. « Hélas !» gémit-elle. « Quel malheur ! Jamais plus je ne pourrai me relever la nuit et me rendre à la fenêtre où j'avais coutume de voir mon ami. Je suis bien convaincue d'une chose. Il va penser que je me dérobe. Il me faut prendre une décision pour éviter ce malentendu. Je vais lui faire parvenir le rossignol. Je lui signifierai toute l'histoire. » Dans un morceau de soie, brodé d'or et d'inscription, elle a enveloppé l'oiseau. Elle a fait venir un de ses serviteurs, l'a chargé de son message et l'a envoyé à son ami. Le serviteur s'est rendu chez le chevalier. Il lui transmit le salut de sa dame, lui délivra son message, lui tendit le rossignol. Face à ce témoignage, le chevalier, qui avait attentivement écouté l'histoire, fut profondément attristé. Mais sa réaction, fort noble, ne se fit pas attendre. Il a fait forger un petit coffre, non de fer ou d'acier, mais tout en or pur, incrusté de belles pierres, très précieuses et de grand prix, avec un couvercle parfaitement ajusté. Le chevalier y a déposé le rossignol. Il fit ensuite sceller la châsse qu'il a toujours emportée avec lui.
On le voit donc, le rapport à la mémoire d'un passé lyrique est central dans la définition du lait narratif qui se distingue de la nouvelle, encore à venir, en ce qu'il se donne un centre absent, point aveugle autour duquel le récit « remembre », dit l'ancien français, c'est-à-dire « se souvient et reconstruit » avec nostalgie, une aventure affective, à la fois enfuite et fondatrice, un passé pensé comme fantomatique pour les personnages évoqués et leurs doubles, les lecteurs. Et la vie amoureuse, bien sûr, est au cœur, hein, si l'on peut dire, de cette construction héroïque. Dans le cadre de la poésie lyrique courtoise, le lait s'efforce en effet lui aussi, avant tout, de faire entendre et résonner la joie de la fine amour, le joy des troubadours et des trouvères, et lie étroitement écriture du récit et exploration du sentiment, invention et désir. Alors, ce que retient Marie de France de la poésie lyrique courtoise de son temps, c'est à la fois son exigence de perfection sensible et formelle et la tension qui la traverse. Tension entre la joie et la douleur, entre la plénitude du partage promis et la faille couvre le manque, quand l'amour est vécu de loin. Tension aussi entre les autres puissances du réel, hein, féodales ou religieuses, et l'exclusivité qu'implique la relation amoureuse, qui ouvre au secret et révèle le sujet à sa propre subjectivité. Dans le recueil, le lait du chèvrefeuille, qui est aussi le plus court de tous les laits, fait entendre de façon saisissante ce rapport à la mémoire lyrique, en faisant de Tristan, figure exemplaire de l'amant poète et compositeur, l'inventeur d'un lait et d'une image poétique, celle du chèvrefeuille, entrelacée à la branche de noisetier, pour dire la nature profondément ambivalente de l'amour, à la fois expérience de la fusion et du manque, qui se dit dans le titre même, et dans une formule poétique restée célèbre, « Belle amie, sillez de nous, ne vous sans moi, ne je sans vous. » Un amour qui inspire et marginalise, rend héroïque dans la marge sauvage de la forêt. Donc nous vous proposons d'écouter le lait en entier.
Le lait du chèvrefeuille. J'ai bien envie de vous raconter la véritable histoire du lait qu'on appelle chèvrefeuille, et de vous dire son origine, les raisons et les circonstances de sa composition. De nombreux conteurs m'ont rapporté, et je l'ai aussi trouvé dans les livres, l'histoire de Tristan et de la reine, de la pureté de leur amour, qui fut pour eux source de tant de souffrances et finit un même jour par leur coûter la vie. Le roi Marc, fou de rage, était en colère contre Tristan, son neveu. Il le bannit de sa terre, à cause de son amour pour la reine. Tristan retourna dans son pays natal, au sud du pays de Galles. Il y resta toute une année sans pouvoir revenir à la cour. Il se mit ensuite en grand danger et s'exposa à la mort. N'en soyez pas surpris, car l'amant loyal souffre le martyre et devient mélancolique lorsqu'il ne peut combler ses désirs. La souffrance, la mélancolie poussèrent Tristan à quitter son pays. Il se rendit droit en Cornouailles, où séjournait la reine. Il se réfugia dans la forêt, seul. Il ne voulait pas qu'on le vît. Il en sortait au crépuscule, à l'heure où il fallait trouver un abri. La nuit, il trouvait refuge chez des paysans, de pauvres gens. Il leur demandait des nouvelles du roi, de ses faits et gestes. Ils lui répétèrent ce qu'ils avaient entendu dire, que les grands du royaume avaient été convoqués. Ils devaient se rendre à Tintagel. Le roi souhaitait y réunir sa cour. À la Pentecôte, tous y seraient rassemblés. De grandes festivités s'y dérouleraient et la reine s'y trouverait. Ces nouvelles remplirent Tristan de joie. Elle ne pourrait pas se rendre à Tintagel sans qu'il la vît passer. Le jour du départ du roi, Tristan retourna dans la forêt. Sur le chemin que le cortège devait emprunter, comme il le savait, il coupa par le milieu une branche de coudrier et la tailla pour l'équarrir. Quand il eut paré le bâton, il y grava au couteau son nom. Si la reine remarquait sa présence, elle qui était très attentive au moindre indice, elle avait une fois déjà décelé sa présence par un signal semblable, Elle reconnaîtrait, dès qu'elle le verrait, le bâton de son amant. En substance, il exprimait le message que Tristan avait écrit à la reine, qu'il était longtemps resté dans la forêt, à attendre indéfiniment pour guetter son passage et trouver un moyen de la voir, car il ne pouvait vivre sans elle. Il en était deux comme du chèvrefeuille entrelacé à la branche du coudrier. Quand il s'est enroulé et a poussé tout autour du rameau, ils peuvent continuer à vivre longtemps enlacés. Mais si on tente ensuite de les séparer, le coudrier ne tarde pas à mourir, le chèvrefeuille aussi. Bien cher ami, il en est ainsi de nous. Ni vous sans moi, ni moi sans vous. La reine avançait. Elle inspectait du regard les bas-côtés de la route. Elle vit le bâton, le remarqua, en déchiffra l'inscription. Elle donna ordre de faire halte à tous les chevaliers qui l'escortaient et accompagner sa chevauchée. Elle voulait descendre de cheval pour se reposer. Ils s'exécutèrent. Elle s'éloigna de son escorte, appela auprès d'elle sa suivante, Branguin, qui était d'une fidélité irréprochable. Elle s'écarta un peu du chemin. Dans le bois, elle retrouva celui qu'elle aimait plus que tout être vivant. Leurs retrouvailles furent source d'une joie immense. Il lui ouvrit son cœur. Elle lui dit tout ce qu'elle désirait lui dire. Puis elle lui expliqua comment se réconcilier avec le roi et toute la peine que lui avait causé son bannissement. Le roi avait agi à la suite d'une accusation. Alors elle repartit, laissa son bien-aimé. Mais quand vint le moment de se séparer, ils se mirent à pleurer. Tristan retourna au pays de Galles et y demeura jusqu'à ce que son oncle le rappelât à lui. Pour célébrer la joie que lui avait donnée la vue de sa bien-aimée et le message écrit inspiré par la reine, Tristan, qui était bon joueur de harpe, composa un nouveau lai afin de garder en mémoire les paroles échangées. « Je vais sans attendre lui donner son titre. » En anglais, on le nomme « goat leaf », en français « chèvrefeuille ». Je vous ai dit la véritable histoire de ce lai que je viens de mettre en récit.
Le lai du chétival, invention lexicale que l'on peut traduire par « pauvre malheureux » ou encore, comme nous l'avons fait, par « infortuné », rapporte également essentiellement les circonstances de sa composition et de sa nomination. Le prologue est particulièrement explicite sur ce point qui identifie l'aventure promise à celle de l'émergence du lait, traité comme un personnage dont on précise le lieu de naissance et le nom de baptême. L'aventure du lait avec ce génitif ambigu sur lequel jouent de nombreux textes se comprend ainsi surtout comme l'aventure de la mise au jour du récit. Je vous laisse entendre le prologue.
J'ai envie de raviver la mémoire d'un lait dont j'ai entendu parler. Je vais vous en raconter l'histoire et vous donner le nom de la cité où ce lait est né et le nom qu'il portait. On l'appelait l'infortuné, mais nombreux sont ceux qui le nomment les quatre douleurs.
L'infortuné, le lait, explore une situation limite qui s'organise autour de la mise à distance et à terme de la faillite de l'expérience amoureuse. Courtisé nuit et jour par quatre prétendants, aimanté par sa beauté et son mérite, la dame, emblématique de ce lait, ne peut en effet se résoudre à choisir, c'est-à-dire à faire évoluer le jeu de la séduction amoureuse vers son accomplissement. Elle les encourage donc tous les quatre, ne voulant pas les treize perdre pour l'un.
La dame dont je veux vous raconter l'histoire, et qui était si courtisée pour sa beauté et son mérite, était sollicitée nuit et jour. En Bretagne vivaient quatre seigneurs. Je ne saurais vous dire leur nom. Ils n'étaient guère âgés, mais c'étaient de très beaux chevaliers, courageux, valeureux, généreux, distingués et prodigues de leurs biens. Ils jouissaient d'une très grande estime et comptaient parmi les nobles du pays. Ces quatre-là aimait la dame et s'évertuait à briller à ses yeux. Chacun consacrait tous ses efforts à gagner sa personne et son amour. Chacun la courtisait de son côté en y mettant tous ses soins et chacun s'imaginait qu'il s'y prenait mieux que les autres. La dame était très avisée. Elle s'accorda le temps de la réflexion pour s'interroger et savoir lequel mériterait davantage d'être aimé. Mais leur valeur à tous était si grande qu'elle ne put désigner le meilleur. Ne voulant en perdre trois pour n'en garder qu'un, elle faisait beau visage à chacun, leur accordait des gages d'amour, leur envoyait des messages. Ils l'apprenaient l'un de l'autre, mais aucun d'eux ne savait qui était le favori. Par ses offres de service, par ses requêtes, chacun s'imaginait faire mieux que les autres. Lors des rassemblements chevaleresques, chacun voulait être le premier à s'illustrer, s'il le pouvait, dans l'espoir de plaire à la dame. Tous quatre la considéraient comme leur amie. Tous portaient l'un de ses gages d'amour, anneaux, manches ou bannières, et chacun avait son nom pour cri de ralliement.
Ne voulant en perdre trois pour n'en garder qu'un. Cette comptabilité exacte, au regard des chiffres, mais contraire à l'expérience amoureuse, se verra réélaborée par la dame en un calcul cette fois impossible à tous égards. Je ne veux pas les perdre tous en n'en prenant qu'un, s'exclamera-t-elle en effet plus loin. Ce cri du cœur, dans son absurdité apparente, révèle ce qui est essentiel pour elle, à savoir une relation fantasmatique, en vertu de laquelle élire un amant parmi quatre revient à le perdre au même titre que les autres. L'issue de cet enfermement dans un amour désincarné sera terrible et exactement conforme à la négation du corps que la dame aura despotiquement maintenu. Trois des quatre prétendants mourront au cours d'un tournoi où ils essaieront désespérément de se distinguer aux yeux de leur bien-aimé. Le dernier y recevra une blessure de la cuisse jusqu'au ventre qui le laissera impuissant. L'infortuné, le nom qu'il se donne après cette aventure, est aussi le nom qu'il impose au lait que la dame compose en mémoire de ce désastre. Le héros et le lait, confondant pour finir leur naissance, leur histoire et jusqu'à leur identité.
Un jour d'été, après le repas, comme elle conversait avec le chevalier, lui revint le souvenir de sa grande douleur. Baissant la tête et le visage, elle s'abîma dans ses pensées. Le chevalier attacha son regard sur elle et se rendit bien compte qu'elle était ailleurs. Il lui adressa la parole avec douceur. « Madame, quelque chose vous tourmente? À quoi pensez-vous? Dites-le-moi, laissez là votre chagrin, il vous faut reprendre courage. « Mon ami, dit-elle, la pensée de vos compagnons me revenait en mémoire. Jamais plus une dame de mon rang, aussi belle, valeureuse et sage soit-elle, n'aimera à la fois quatre chevaliers d'une telle valeur pour les perdre en un seul jour. Vous seul excepté, qui fûtes blessé et avez frôlé la mort de près. Pour vous avoir tant aimé, je désire que se perpétue la mémoire de ma douleur. Je composerai un lait sur vous quatre, que j'appellerai les quatre douleurs. » À ces mots, le chevalier se hâta de répondre. « Madame, composez ce nouveau lait, mais appelez-le l'infortuné. » Et je vais vous démontrer que c'est bien ainsi qu'il doit s'intituler. Voilà un moment que les autres sont morts, après avoir enduré toute leur vie la profonde souffrance que leur causait l'amour qu'ils avaient pour vous. Mais moi, qui en ai réchappé, pauvre et perdu, pauvre infortuné que je suis, celle que j'aime le plus au monde, je la vois souvent aller et venir, me parler le matin et le soir, sans toutefois pouvoir connaître la joie d'un baiser ou d'une étreinte, ni avoir d'autre plaisir que celui de la conversation. Je souffre mille maux à cause de vous. Je préférerais être mort. Aussi est-ce de moi que le titre du lait s'inspirera. On l'appellera l'infortuné. Qui le nommera les quatre douleurs lui ravira son vrai titre. Ma foi, dit-elle, cela me plaît. Nommons-le donc l'infortuné. C'est ainsi que commença la composition du lait, qui fut ensuite achevée et rendue publique. Parmi ceux qui le récitèrent, certains l'appelèrent les quatre douleurs. Les deux titres lui conviennent au regard de son sujet, mais il est d'usage de l'intituler l'infortuné. Il se termine ici et ne va pas plus avant. Je n'en ai pas entendu ni n'en sais davantage et ne vous en raconterai pas plus.
Ainsi se dit donc la puissance d'évocation du récit, hein, qui compense en quelque sorte sa brièveté formelle par sa force suggestive et sa portée mémorielle, comme le fait une chanson. Mais le récit se distingue du chant. Mis à l'épreuve du temps, vous l'avez entendu, l'amour y perd des plumes, si l'on peut dire. Le chant du laostique s'y éteint, et pour la poésie, les récits de Marie de France font parfois figure de plaintes funèbres. Dans cette aventure, cependant, le sujet lyrique, devenu personnage, y gagne en singularité. Dans les laits narratifs, l'amour n'est pas célébré comme un idéal atemporel et immuable, comme dans la poésie. Il est montré en devenir, dépendant des situations, des personnalités, des décisions. Si le couple est souvent placé sous le signe de la prédestination et de l'élection, nombreux sont les instants où le destin bascule, où les personnages admettent leur perfectibilité et font valoir la force de leur choix, on vient de l'entendre. Proche de l'univers des contes, ces personnages s'en éloignent en assouplissant leur type, en entrant dans le contingent et l'imprévu. Quel que soit le dénouement, heureux ou tragique, en suspens ou définitif, le récit expose des situations en fait de déséquilibre qui révèlent, on va le voir, la difficile construction du sujet courtois. Non seulement le sentiment amoureux est plongé dans une histoire, mais cette histoire sert de miroir, en quelque sorte, au lecteur noble du XIIe siècle, confronté aux tensions entre vie affective et vie sociale qui constituent les données complexes de leur existence. Évidemment, la mise en recueil dans les manuscrits accentue cet effet de variation autour de situations somme toute très concrètes. Chaque lettre semble explorer des situations de crise qui sont pour certaines encore d'actualité pour nous. Être amoureux de la femme d'un voisin, d'un ami, d'un subordonné, le vassal, d'un patron, le suzerain, être fille-mère ou bien privée de famille, aimer et vouloir épouser deux femmes en même temps, aimer au contraire, on vient de le voir, plusieurs hommes sans vouloir faire de choix, ou pire encore, ne pas savoir aimer du tout, comble de la perdition morale dans la société de Marie. Telles sont les réalités conflictuelles auxquelles sont confrontés les héros des laits. Alors, vous allez l'entendre, dans le lait des deux amants, la jeune fille est une autre peau d'âne, étouffée par l'amour d'un père veuf, qui lui fait jouer le rôle de l'épouse disparue.
Les deux amants. Jadis se déroula en Normandie l'histoire célèbre de deux jeunes gens qui s'aimèrent et moururent tous deux par amour. Les Bretons en firent un lait qu'on intitula « Les deux amants ». Il est vrai qu'en Normandie, jadis appelée Neustrie, se dresse une montagne extraordinairement élevée. À son sommet gisent les corps des deux jeunes gens. Près de cette montagne, à l'écart, un roi, seigneur des Picrois, fit très judicieusement construire une cité. Il la baptisa Pitre, du nom des Picrois. Ce nom existe toujours. On trouve encore au même emplacement une ville et des habitations. Comme on le sait, on appelle la région le Val des Pitres. Le roi avait une fille. Elle était très belle et avait toutes les qualités. Elle était fille unique. Il l'aimait de tout son cœur. Elle fut courtisée par des hommes de haut rang qui auraient bien voulu l'épouser, mais le roi ne voulait pas la donner en mariage, ne pouvant se résoudre à se séparer d'elle. Il n'avait pas d'autre point d'attache et passait nuit et jour à ses côtés. La jeune fille était sa seule consolation depuis la mort de la reine. Ils furent nombreux à lui reprocher son attitude, y compris parmi ses proches parents. Quand le roi sut que le sujet alimentait la rumeur, il en fut profondément blessé et contrarié. Il se mit à imaginer un moyen qui lui permettrait d'éviter qu'on lui demandât la main de sa fille. Il fit proclamer partout que l'homme qui souhaiterait épouser sa fille devait être bien certain d'une chose. Il lui faudrait, c'était la condition, la porter dans ses bras jusqu'au sommet de la montagne voisine, sans jamais la poser à terre. Quand la nouvelle eut fait le tour du pays, beaucoup tentèrent l'épreuve, sans succès. Certains, redoublant d'efforts, parvinrent à porter la jeune femme sur la moitié du chemin, sans pouvoir aller plus loin. Il leur fallut renoncer là. La fille du roi resta longtemps à un cœur à prendre, personne ne voulant demander sa main.
Un jeune homme, pourtant, brave l'impossible par amour, bien sûr. La jeune fille, pour faciliter sa tâche, lui propose alors de s'aider d'une médecine, un filtre, qui lui donne des forces pour faire l'ascension.
Il y avait dans le pays un jeune homme, très beau, un fils de comte. Il s'efforçait par sa conduite d'être insurpassable. Il fréquentait la cour du roi et y passait beaucoup de temps. Il tomba amoureux de la fille du roi et lui fit une cour assidue, la suppliant de lui offrir son cœur et de lui accorder son amour. Comme il avait de la valeur et de la distinction, et que le roi le tenait en grande estime, la jeune femme donna son amour au jeune homme, qui lui en fut humblement reconnaissant. Ils eurent des entretiens réguliers et s'aimèrent d'un amour loyal, en se cachant comme ils le pouvaient pour ne pas être découverts. La situation était très pénible à supporter, mais lui avait compris que la patience était préférable à la précipitation, source d'échec. Par amour pour elle, il était à la torture. Puis vint un jour où le jeune homme, qui était si sage, si méritant, si beau, vint trouver son ami et se plaignit de son sort. Il la supplia expressément de s'enfuir avec lui. Il ne pouvait plus supporter ce supplice. S'il la demandait en mariage à son père, il savait bien que ce dernier l'aimait à un tel point qu'il n'accepterait de lui donner sa main qu'à la condition qu'il parvint à la porter dans ses bras jusqu'au sommet de la montagne. La jeune fille lui répondit : « Mon bien-aimé, je le sais bien. Vous ne pourrez pas me porter jusqu'en haut. Vous n'êtes pas assez fort. Et si je m'enfuyais avec vous, la tristesse et la colère de mon père seraient telles qu'il vivrait un enfer. Je l'aime de tout mon cœur. Je ne voudrais pas lui faire de peine. Il vous faut trouver une autre solution, car je refuse celle-ci. J'ai une parente à Salerne, une femme d'influence qui a beaucoup de ressources. Elle habite là-bas depuis plus de 30 ans. Elle a tant pratiqué la médecine qu'elle est experte en remèdes. Elle connaît si bien les herbes et les racines que si vous consentez à aller la voir munie d'une lettre de ma part et à lui expliquer votre histoire, elle en fera grand cas. Elle vous prescrira un électuaire et vous donnera un filtre qui vous affermiront et vous donneront des forces. À votre retour, vous demanderez ma main à mon père, il vous prendra pour un enfant et vous rappellera la règle. Qu'aucun homme ne m'épousera, quelque insistance qu'il y mette, s'il ne parvient à me porter jusqu'au sommet de la montagne, dans ses bras sans jamais me poser. Acceptez sa condition sans réserve, puisqu'il ne peut en être autrement. »
Aux deux amants, donc, l'ascension de la montagne donnera l'occasion au moins d'une étreinte, fugitive et fatale.
Au jour fixé, où l'on était venu en foule, le jeune homme fut le premier sur les lieux. Il n'oublia pas d'emporter son filtre. Dans une prairie de la vallée de la Seine, au milieu de la foule immense, le roi conduisit sa fille. Elle ne portait rien d'autre que sa chemise. Son ami la prit dans ses bras. La petite fiole qui contenait le filtre, il la lui mit entre les mains. Il savait bien qu'elle n'avait pas l'intention de le trahir. Mais j'ai bien peur qu'il n'en tire aucun bienfait, car il fit preuve de démesure. Il partit d'un bon pas, la jeune femme dans les bras. Il gravit la moitié de la montagne. Tout à la joie de serrer sa bien-aimée contre lui, il oublia le filtre. Elle sentit qu'il faiblissait. « Mon ami, » fit-elle, « buvez donc. Je vois bien que vous faiblissez. Reprenez des forces. » Le jeune homme répondit, « Ma belle, mon cœur est solide. Je le sens. Je ne m'arrêterai pour rien au monde, pour perdre du temps à boire, tant que je pourrai faire trois pas. La foule nous encouragerait de ses cris, leur vacarme m'étourdirait et pourrait vite me perturber. Je ne veux pas m'arrêter maintenant. » Quand il eut gravi les deux tiers de la pente, il manqua de tomber à terre. La jeune fille ne cessait de le supplier. « Mon ami, prenez votre remède !» Il ne voulut ni l'écouter, ni lui accorder crédit. Il fit tout le chemin dans un état d'épuisement extrême. Il arriva au sommet. L'effort l'avait tant accablé qu'il s'écroula et ne se releva plus. Son cœur avait lâché. La jeune fille vit son bien-aimé à terre. Elle crut qu'il s'était évanoui. Elle s'agenouilla près de lui. Elle voulait lui faire avaler son filtre, mais il ne pouvait pas lui parler. C'est ainsi qu'il mourut, comme je le raconte. Elle le pleura à grands cris. puis jeta le flacon où se trouvait le filtre sur le sol. Le contenu se répandit, la montagne en fut imprégnée. Ce fut un bienfait pour tout le pays et pour la région. On y a retrouvé quantité d'herbes bénéfiques qui avaient pris racine sous l'effet du filtre. Revenons maintenant à la jeune fille. La perte de son bien-aimé lui causa une souffrance inouïe. Elle se couche de tout son long contre lui, le prend dans ses bras et le serre contre elle. Elle couvre de baisers ses yeux et sa bouche. La douleur que lui cause sa mort l'atteint en plein cœur. Là mourut la jeune femme, si méritante, si sage, si belle. Le roi et ceux qui les attendaient en bas, quand ils les eurent perdus de vue, partirent à leur recherche, puis les trouvèrent. Le roi tomba à terre, évanoui. Quand il eut retrouvé l'usage de la parole, il se lamenta à grands cris. Même les étrangers pleuraient. Ils gardèrent les corps 3 jours avant de les enterrer. Ils firent monter une sépulture de marbre et y placèrent les 2 jeunes gens. Se conformant à l'avis des témoins, ils les enterrèrent au sommet de la montagne avant de se séparer. L'histoire des 2 jeunes gens a donné son nom à la montagne des 2 amants. Les faits eurent lieu comme je vous les ai racontés. Les Bretons en ont fait un lait.
Alors, dans le texte médiéval, la mémoire tragique des amants s'inscrit dans le paysage naturel de Normandie. Dans notre mémoire littéraire, l'histoire vous rappelle sans doute aussi la Sappho d'Alphonse Daudet, où un jeune homme monte un escalier avec une femme de plus en plus lourde dans ses bras et ne parvient pas à rendre réel son élan amoureux. Passage longuement commenté par Freud, je vous y renvoie.
Alors, autre exemple, dernier exemple de réalité conflictuelle, le lait d'Elidieu. Alors, ce lait explore longuement l'émergence et le développement d'un dilemme amoureux tellement inextricable qu'il empêche le protagoniste aussi bien de vivre que de mourir. La situation d'origine est pourtant banale. Eliduc ou Elidus, le héros du lait, que son nom prédestine à ne pouvoir choisir encore, élire en ancien français, entre 2 femmes, Eldus, doit quitter son épouse fidèlement aimée pour se mettre au service d'un roi étranger dont le château est assiégé par l'un de ses pairs. Son courage, sa vaillance et ses talents de stratège y font bientôt merveille et la jeune fille du roi, Guilliadon, s'éprend de lui profondément et sans retour.
La jeune fille, après l'avoir vu, est résolue à faire de lui son ami. Nul ne l'a jamais ébloui à ce point. Si elle le pouvait, elle le retiendrait près d'elle. Toute la nuit, ses pensées la tinrent éveillée. Elle ne put ni dormir, ni se reposer. Le lendemain, levée de bon matin, elle est allée à une fenêtre, a fait venir son chambellan et lui a ouvert son cœur. « Par ma foi, dit-elle, les choses vont mal pour moi. Je suis dans un mauvais pas. J'aime le nouveau venu, Eliduc, le valeureux chevalier. De la nuit, je n'en ai trouvé le repos ni fermé l'œil. S'il consent à m'accorder son amour et à s'engager personnellement envers moi, j'accéderai à tous ses désirs. Sans compter qu'il peut en retirer un bel avantage, il sera le roi de ce pays. Il est si avisé et si distingué que s'il ne m'aime d'amour, il me faudra mourir de désespoir. »
Alors, Eliduc, qui n'a pas avoué à la jeune femme qu'il est déjà marié, ne tarde pas à partager son amour. Il lui faut cependant repartir dans son pays où son seigneur le rappelle et où sa femme l'attend. La nécessité de la séparation, l'incapacité à s'y résoudre, jointe à l'impossibilité d'envisager un avenir commun, dessine pour les amants un horizon sans issue. Pris dans des conflits de loyauté contradictoires et insurmontables, Eliduc, dans un monologue douloureux, dresse l'état des lieux de son enfer intérieur, comme vous allez l'entendre.
Hélas, se lamentait-il, j'ai mal agi. Je suis trop resté dans ce pays. C'est pour mon malheur que j'y ai posé le pied. J'y suis tombé amoureux d'une jeune fille, Guilliadon, la fille du roi. Nous nous aimons éperdument, elle et moi. Puisqu'il me faut la quitter ainsi, l'un de nous devra en mourir, les 2 peut-être. Et pourtant, il me faut partir. Mon Seigneur m'en a conjuré par lettre et en a appelé à mon serment. Et puis, Il y a ma femme, dont il me faut maintenant me soucier. Je ne peux rester. Je m'en irai donc, puisqu'il le faut. Quant à épouser mon ami, l'Église ne le permettrait pas. Je ne vois aucune issue.
La solution, si l'on peut dire, du chevalier sera d'ignorer le réel. Il reviendra donc chercher Guilliadon chez son père pour la ramener chez lui. Guilliadon, comme Guille de Lueck, l'épouse, continuant à ignorer l'existence l'une de l'autre. C'est durant la traversée, à la faveur de l'indiscrétion d'un marin, que Guilliadon apprend que son amie est mariée. Elle s'évanouit alors si profondément qu'Héliduc la croit morte.
Mais il la tenait entre ses bras et faisait ce qu'il pouvait pour adoucir les souffrances que lui causait la mère et le fait d'avoir entendu que son amie avait une épouse dans son pays, une autre femme. Elle se laissa aller contre le visage d'Héliduc, toute pâle, sans couleur. Elle demeura longtemps évanouie, sans revenir à elle ni pousser un seul soupir. Il la porte dans ses bras, croyant vraiment qu'elle est morte. Héliduc se mit à réfléchir à l'endroit où il pourrait la transporter. Sa demeure était près de la mer. Il pouvait s'y trouver pour l'heure du déjeuner. Elle était entourée d'une forêt qui s'étendait sur 30 lieues. Un saint ermite y vivait qui disposait d'une chapelle. Il était là depuis 40 ans. Héliduc lui avait parlé à maintes reprises. C'est à cet homme, se dit-il, qu'il la porterait pour l'ensevelir dans sa chapelle. Il lui donnerait assez de terre pour y fonder une abbaye. Il y installerait un couvent de moines, de religieuses ou de chanoines qui tous les jours prieraient pour elle. Que Dieu lui accorde sa miséricorde. Il a fait amener ses chevaux, ordonne à tous de se mettre en selle, mais avant leur départ, il leur fait jurer qu'ils ne révéleront rien à son sujet. Devant lui, sur son cheval de voyage, il porte son ami serré dans ses bras.
Mais le vieil ermite est mort, enterré depuis une semaine. Éperdu, Héliduc dépose le corps de Guilliadon devant l'autel de la chapelle de l'ermitage. Tous les jours, il lui rend visite. Et bien que le teint de la jeune femme conserve ses couleurs fraîches, son amant reste persuadé qu'elle est morte. Rendue curieuse par les allées et venues quotidiennes de son mari, l'épouse d'Héliduc finit par découvrir Guilliadon, gisant dans la chapelle, dans cet état de catalepsie qui métaphorise l'impasse dans laquelle les personnages, comme le récit, en sont parvenus. C'est l'épouse qui trouvera l'issue de cette double impasse. Significativement, dans ce lait qui explore les dangers du défaut de parole, cette issue aura à voir avec la bouche. Voyant dans la chapelle une belette redonner vie à sa compagne grâce à une fleur merveilleuse, Guille de Lueck, que la jeunesse et la beauté de Guilliadon ont ému, place cette même fleur dans la bouche de la jeune femme qui, ouvrant les yeux, se met aussitôt à parler pour raconter son histoire. Vous allez l'entendre à votre tour.
La dame se leva, s'en saisit, revint en hâte sur ses pas. Dans la bouche de la jeune femme si belle, elle mit la fleur. Au bout d'un moment, celle-ci revint à elle et poussa un soupir. Puis elle parla, ouvrit les yeux. « Mon Dieu, » dit-elle, « comme j'ai dormi !» En l'entendant parler, la dame se mit à rendre grâce à Dieu. Elle lui demanda qui elle était, et la jeune femme lui répondit, « Madame, je suis originaire de l'Ogre, et fille d'un roi du pays. J'ai passionnément aimé un chevalier, Héliduc, le vaillant guerrier. Il m'emmena avec lui, il a commis un péché en me trompant. Il avait une épouse, il ne m'en dit rien. » Et ne m'en laissa rien deviner. Quand j'entendis évoquer l'existence de sa femme, la souffrance me fit m'évanouir. Il m'a lâchement abandonnée, livrée à moi-même en terre étrangère. Il m'a trahie, je ne sais pourquoi, bien folle et qui se fie à un homme. « Belle amie, répondit la dame, nul être au monde ne peut plus le rendre heureux. Cela, on ne peut le nier. Il vous croit morte. C'est peu dire qu'il est désespéré. Tous les jours, il est venu vous contempler. » Vous étiez, je pense, évanouie. La vérité est que je suis son épouse. J'ai le cœur serré pour lui. Voyant sa douleur, je voulus savoir où il allait. Je le suivis, je vous trouvais. Vous êtes vivante, j'en suis si heureuse. Je vous emmènerai avec moi et vous rendrai à votre ami. Je veux lui redonner toute sa liberté et prendre le voile. La dame l'a réconforté et a fini par l'emmener avec elle.
Héliduc peut ainsi épouser Guilliadon. À la la fin de leur vie, tous les protagonistes se rejoindront dans l'amour de Dieu, et Diduc se retirant dans un monastère qu'il aura fondé, et les deux femmes se retrouvant dans le même couvent. Cette fin très inhabituelle, dont on ne sait trop au fond quelle valeur elle promeut, jointe au caractère ouvertement artificiel de l'expédient de la fleur magique, viennent tous deux témoigner dans des registres très différents du degré d'exaspération de la situation dilemmatique qui est élaborée dans Soleil, le dernier du recueil, et de loin, on le comprend, le plus long.
Alors, le travail de translation permet beaucoup de souplesse, en fait, hein, dans les choix de la narration. On a essayé de vous en donner quelques exemples. Et Marie de France s'est distinguée, en fait, en élaborant une esthétique reconnaissable, centrée sur des effets de suspension narrative subtilement menés et sur une poétique du regard et de la parole. Au fil des lais, la narratrice sollicite la participation émotionnelle de son lecteur par de nombreux procédés repérables, notamment par des effets de variation de la vitesse du récit, puisqui porté par le couplet d'octosyllabes à rime plate que vous n'entendez pas dans la traduction. Centré sur l'histoire d'une rencontre qui fait événement, les lais restituent avec précision et intensité toujours le moment de l'instant décisif, dans lequel le lecteur avec le personnage doit être véritablement saisi, ou plutôt dessaisi, de ses modèles de comportement ou de pensée habituels. Dans chaque lai, ces rencontres sont toujours associées à la perception subjective et affective d'un personnage que le récit s'efforce de restituer de l'intérieur. Alors le premier lai du recueil, Guy Jemard, un lai splendide, en témoigne de façon exemplaire. Le héros y est affecté au début de l'histoire d'un mâle qui trahit son immaturité affective, c'est lui qui ne sait pas aimer. Bon, il est insensible à l'amour. L'aventure qui lui est réservée fera pour lui office de douloureuse et longue initiation. Lors d'une chasse solitaire, la rencontre avec un animal féerique va sceller son destin, une rencontre en quelque sorte du troisième type, vous allez l'entendre.
En le formant, nature commit une seule erreur. Il était insensible à l'amour. Aucune femme au monde... Non ?
Si, c'est ça.
Alors. Il était insensible à l'amour. Aucune femme au monde, mariée ou non, quelle que fût sa noblesse et sa beauté, n'aurait dédaigné sa requête, s'il s'était déclaré. Elles furent nombreuses à lui déclarer leur flamme. Mais il n'avait aucune envie d'une liaison. Personne n'avait jamais surpris en lui le moindre désir d'aimer. À cause de cette défaillance, tous le tenaient pour perdu, ses amis comme les autres. Quand il fut au sommet de sa gloire, le vaillant chevalier retourna dans son pays voir son père et seigneur, sa chère mère et sa sœur, auxquelles il avait tant manqué. Il resta auprès d'eux, je crois, tout un mois. Un jour, l'envie lui vint d'aller à la chasse. La nuit, il convoque les chevaliers de sa suite, ses chasseurs et ses rabatteurs. Le matin, il se rend dans la forêt, tout à la joie d'aller chasser. Sur la piste d'un grand cerf, ils ont lâché les chiens. Les chasseurs se sont lancés devant. Le jeune homme est resté un peu en arrière. Un écuyer lui apporte son arc, son couteau et son chien de chasse. Le chevalier voulait pouvoir saisir une occasion de tirer avant d'avoir quitté la forêt. Dans l'épaisseur d'un grand buisson, il vit une biche avec son faon. La bête était toute blanche. Elle portait des bois de cerf. Les aboiements du chien la firent bondir. Le chasseur tend son arc, lui décoche une flèche. Touchée en plein front, elle tombe sur le cou. La flèche ricoche, revient frapper Guijemard, à la cuisse, atteint le cheval. Le jeune homme est contraint de mettre aussitôt pied à terre. Il tombe à la renverse sur l'herbe drue, aux côtés de l'animal qu'il a touché. La biche, blessée, oppressée, gémissait. Elle se mit alors à parler. « Hélas, je suis blessée à mort. Chevalier, toi qui m'as blessée, que tel soit ton destin. Puisses-tu ne jamais trouver herbe ou racine pour te soigner. Jamais médecin ni remède ne pourra guérir ta blessure à la cuisse jusqu'à ce que tu rencontres une femme qui éprouvera par amour pour toi une souffrance et un tourment qu'aucune femme n'a jamais enduré encore, et que tu partageras. Cette passion étonnera tous les amants, passés, présents et à venir. Va-t'en. Laisse-moi en paix.
Avatar de la figure féerique qu'on retrouve dans les contes, l'animal merveilleux anticipe ici, bien sûr, la découverte du féminin. Comme le rêve, le merveilleux sert ici d'écran de révélation. Pour Guijmar, l'apparition de la biche féerique représente l'indifférenciation sexuelle, un cerf et une biche, dans laquelle il se trouve, son effroi devant la féminité, associé à la maternité par la présence du faon. La scène a la violence d'un fantasme qui suggère aussi au héros une résolution possible élaborée en mots et en images. La double blessure, la prophétie animale, la guérison par la découverte de l'autre, femme, restitueront cette unité perdue à laquelle rêve confusément le chevalier. L'ensemble du récit se construit en suivant la progressive découverte par le héros de sa véritable identité d'homme et de sa capacité à aimer. Un parcours qui donnera lieu à un dénouement heureux, lié précisément à l'histoire étonnante d'un nœud à défaire, alors vous découvrirez seul si vous en avez envie, et permettra à ce héros plus chanceux que d'autres de réintégrer l'ordre social. Pour d'autres hommes, la rencontre féerique se passe d'intermédiaire animal. L'enval rencontre la fée de ses rêves au détour d'une promenade en forêt. Cette apparition stupéfiante, savamment préparée par la narratrice, accuse le caractère féerique du personnage qui attend sa venue allongée, en déshabillé, dans un lit, dans une tente somptueuse, et répond immédiatement à sa déclaration d'amour. La description met en évidence, vous allez voir, l'érotisme lié à la merveille dans les lettres de Marie de France.
Elle l'en conduit jusqu'au pavillon, qui était fort beau et fort bien installé. Ni la reine Sémiramis, au fait de sa richesse, de sa puissance et de son savoir, ni l'empereur Auguste n'aurait pu s'en offrir le pan droit. On avait disposé au sommet un aigle d'or, dont je ne peux évaluer la valeur, non plus que celle des cordes et des piquets qui soutenaient les pans de la tente. Aucun roi au monde n'aurait pu se les offrir, fût-ce pour une fortune. À l'intérieur se tenait la jeune fille. Elle surpassait en beauté la fleur de lys et la rose nouvelle lorsqu'elle éclot à la belle saison. Elle était étendue sur un très beau lit. Les draps valaient le prix d'un château. Sans autre vêtement que sa chemise. Comme son corps était bien fait et gracieux. Elle avait un luxueux manteau de soie d'Alexandrie doublé d'hermine blanche, simplement jeté sur elle à cause de la chaleur. Ses flancs étaient entièrement découverts, ainsi que son visage, son cou et sa poitrine. Sa peau était plus blanche que la fleur d'aubépine. Le chevalier s'avança et la jeune fille l'appela à elle. Il s'est assis devant le lit. « L'enval, dit-elle, cher ami, pour vous j'ai quitté ma terre. C'est de loin que je suis venue vous chercher. Si vous êtes vaillant et noble, jamais empereur, comte ou roi n'eurent autant de joie et de richesse que vous en aurez. Car je vous aime plus que tout. » Il la regarda, il vit qu'elle était belle, amour le brûle de l'étincelle qui enflamme et embrase son cœur. Il lui répond avec douceur, « Belle, s'il vous plaisait de bien vouloir m'aimer, si un tel bonheur m'arrivait, vous ne sauriez rien exiger de moi que je n'accomplisse de mon mieux, que cela soit folie ou sagesse. Je vous obéirai en tout. Pour vous, j'abandonnerai le monde. » « Je veux rester avec vous pour toujours. C'est ce que je désire le plus sur terre. » Quand la jeune fille entendit l'aveu d'un tel amour, elle lui fit don de son amour et de sa personne.
Blanche donc comme fleur d'aubépine, même plus blanche que la fleur d'aubépine, fleur de lys et rose nouvelle, la figure féminine répond ici avant tout à une esthétique qui exalte la lumière et la perfection de la couleur, jouant sur la juxtaposition de teintes éclatantes, valorisant la netteté des tracés et excluant la nuance. La blancheur féerique peut être réinterprétée au filtre de son sentiment esthétique que vous retrouverez dans les enluminures, l'art du vitrail et les objets contemporains, profanes ou sacrés. Nue ou rehaussée par des couleurs et par l'éclat resplendissant de l'or, la blancheur est une lumière qui semble irradier des objets pour s'imposer immédiatement au regard. Au plan esthétique, la merveille, qui est omniprésente dans les laits de Marie de France, est en profonde communion avec la nature animale et végétale. Elle en est comme la manifestation stupéfiée, magnifiée par le regard et bien sûr la puissance du désir. C'est elle qui signale la présence possible d'un autre monde, où les héros s'ouvrent à d'autres identités et dans lesquelles, eh bien, nous allons vous emmener pour finir.
L'élève féerique de Marie, comme de nombreux lettres anonymes, se caractérise en effet par la prégnance de ce que les médiévistes appellent l'autre monde. Monde parallèle au monde quotidien, dont les caractéristiques qui empruntent à la mythologie celtique ont depuis longtemps été identifiées. Ces différents éléments sur lesquels je passe, frontières aquatiques, animaux, objets, personnages féeriques, qui font résonner l'imaginaire celtique dans les rêves, sur un mode assourdi et discontinu, se mêlent à d'autres matériaux narratifs d'inspiration courtoise pour la plupart, cette nouvelle conjointure, pour parler comme chrétien, formant le cadre du merveilleux propre à chaque récit. Dans chaque lai, l'autre monde s'appréhende essentiellement dans le rapport dialogique qu'il noue avec le monde que la fiction donne pour réel. Ce rapport peut d'abord être défini comme un rapport d'inversion. L'autre monde, c'est souvent l'envers du monde. C'est en particulier le cas dans L'Enval, où l'espace de la fée, qu'on vient d'entendre, inverse systématiquement les données et les valeurs de l'espace de la cour arthurienne. À un monde féodal articulé autour de la violence, des relations de pouvoir, et dominé par l'injustice, l'envie, l'intérêt, répond un monde entièrement organisé par les valeurs courtoises de la générosité, de la réciprocité et du raffinement. Ces vertus se rencontrant idéalement, bien sûr, dans la relation amoureuse du héros et de son amante. L'autre monde d'Hélès s'affirme ainsi comme un espace alternatif au monde réel, comme un monde possible, où les projections imaginaires prennent corps et viennent constituer des hypothèses fictionnelles, dirait Thomas Pavel, pour l'univers où nous vivons. C'est à ce titre l'espace privilégié de l'aventure, c'est-à-dire étymologiquement de ce qui peut ou doit arriver. S'y accomplissent les destins de personnages qui ne trouvent pas ou plus leur place dans leur monde initial. Cet accomplissement se confond avec celui du désir amoureux dont l'autre monde constitue la scène d'incarnation privilégiée. Si tous les laits féeriques peuvent en témoigner à des degrés divers, c'est sans doute le lait dionèque, dont nous n'avons pas encore parlé, qui en constitue l'illustration la plus frappante. L'apparition de l'oiseau fée, qui se métamorphose bientôt en un splendide chevalier, s'y donne en effet comme l'incarnation exacte du désir de l'héroïne, une jeune femme tenue étroitement enfermée par son vieux mari jaloux. À peine a-t-elle souhaité, à haute voix, posséder un amant merveilleux, comme dans les contes d'autrefois, dit-elle, qu'il prend corps devant elle.
Ce fut au début du mois d'avril, quand les oiseaux modulent leur chant. Le Seigneur, levé de bon matin, s'est préparé à aller chasser en forêt. Il a enjoint à la vieille de se lever et de fermer les portes après son départ. Cette dernière lui obéit. Le Seigneur partit avec ses gens. La vieille, elle, tenait son psautier, désireuse d'en réciter des versets. La dame, qui était réveillée, en pleurs, remarqua la clarté du soleil. Elle s'aperçut que la vieille était sortie de la chambre. Elle se mit à pousser force plainte ses soupirs et à se lamenter en pleurant. « Hélas !» s'écrie-t-elle. « Quel malheur que le mien ! Ma destinée est bien cruelle. Je suis prisonnière dans ce donjon. Je n'en sortirai que morte. Ce vieux jaloux, de quoi a-t-il peur pour me retenir si étroitement prisonnière ? Il est complètement fou et stupide avec son obsession d'être trahi. Je ne peux même pas aller à l'église, entendre le service divin. Si j'avais la possibilité de parler aux gens et de l'accompagner dans ses divertissements, je lui ferais bon visage, même si je n'en ai pas envie. Maudits soient mes parents et tous les autres qui me donnèrent à ce jaloux et me marièrent avec lui. Elle est solide, la corde que je tire et tire encore. Jamais il ne mourra. C'est dans le fleuve de l'enfer qu'on a dû l'immerger quand on l'a baptisé. Il a des nerfs et des veines à toute épreuve, toutes pleines de sang vif. J'ai souvent entendu dire qu'on trouvait jadis en ce pays des aventures qui réconfortaient les mélancoliques. Les chevaliers rencontraient des jeunes filles qui répondaient à leurs désirs, charmantes et belles, et les dames des amants, beaux et raffinés, courageux et valeureux. Elle n'encourait aucun blâme, car elle seule pouvait les voir. Si cela a pu être, si cela a été, si nul a déjà connu cette aventure, que Dieu, qui peut tout, exauce mon désir. Après s'être ainsi lamentée, elle aperçut la forme d'un grand oiseau se découper dans le cadre d'une étroite fenêtre. Elle ne sut ce que cela pouvait être. L'oiseau pénétra en volant dans la chambre. Ses pattes portaient des lanières. Il avait l'apparence d'un autour de 5 ou 6 mues. Il se posa devant la dame. Il demeura ainsi un moment, et quand elle l'eut bien observé, il se métamorphosa en un chevalier beau et élégant. La dame en fut saisie de stupéfaction. Son sang reflua et bouillonna dans ses veines. Épouvantée, elle rabattit son voile sur sa tête. Mais le chevalier fit preuve d'une grande délicatesse. Il lui adressa la parole le premier. « Madame, dit-il, n'ayez pas peur. C'est un noble oiseau que l'autour. Si cette énigme vous reste obscure, soyez persuadée que vous ne courez aucun danger et faites de moi votre ami. C'est pour cela, continua-t-il, que je suis venu jusqu'ici. Il y a longtemps que je vous aime, et quand moi-même je brûle de désir pour vous, je n'ai jamais aimé d'autre femme que vous, et n'en aimerai jamais d'autre. Mais je ne pouvais venir à vous, ni sortir de mon palais, avant que vous n'en formuliez la requête. »
Dans les lettres féeriques du recueil, l'autre monde apparaît ainsi, comme l'ouverture soudaine et précaire d'une autre dimension du monde sous la poussée du désir des héros. Il s'impose dès lors moins comme un espace fondamentalement autre que comme l'espace de l'autre, c'est-à-dire où une autre vie peut prendre forme grâce à la rencontre d'un autre singulier. Tout est alors affaire de point de vue, comme illustre parfaitement le lait de Guijemard, où c'est le monde de la dame qui remplit pour Guijemard le rôle de l'autre monde, il y trouve la guérison amoureuse, tandis que c'est le monde de Guijemard qui apparaît aux yeux de la dame comme un autre monde qui lui apporte à elle la liberté et le bonheur. Réversibilité exacte que vient confirmer le mode par lequel chaque personnage accède au monde de l'autre, une navigation merveilleuse sur une nef sans gouvernail. L'autre scène, pour employer une notion freudienne, qu'incarne l'autre monde des laits, est aussi plus rarement le lieu où se révèle l'opacité de la psyché humaine, et c'est sur ce dernier point que nous terminerons notre parcours. Le texte emblématique de ce type de révélation est Bisclavret, une histoire de loup-garou très atypique, qui s'intéresse surtout à l'énigme de l'articulation au sein d'un même individu, de l'humanité et de l'animalité. Le lait accuse plusieurs écarts importants par rapport à la tradition lettrée et orale des histoires de lycanthropie. Le plus manifeste est que le loup-garou de ce lait est en réalité très peu redoutable. La mention de ses activités nocturnes est expéditive et elliptique. Elle se résume à un énoncé, « Je vis de proie et de rapine ». Énoncé qui pourrait convenir à n'importe quel animal sauvage et même à n'importe quel chevalier en rupture de banc. Cet étrange loup-garou n'est présenté ni comme un mangeur d'hommes, ni même comme un dévastateur de troupeaux. Enfin, aucune instance surnaturelle, fût-elle païenne, n'est au principe de la métamorphose du héros, dont on ne sait au juste ce qui la motive. Ces écarts et ces manques déplacent la nature du changement de l'homme en loup. De châtiment extérieur, infligé par une instance transcendante ou causé par une force surnaturelle, elle devient tourment intérieur, dont les effets sont d'abord psychiques. Plus que le prodige d'une métamorphose d'origine surnaturelle qui se résoudrait en une morale édifiante, le lait interroge ainsi l'énigme inquiétante d'une identité instable, où la frontière entre humanité et animalité n'est pas assurée. Alors cette instabilité se dit dans la langue elle-même, et plus particulièrement dans le nom du personnage, commenté dès le prologue du lait.
Puisque j'entreprends de travailler sur les laits, je n'ai garde d'oublier Bisclavret. On l'appelle Bisclavret en breton, quant aux Normands, ils le nomment Garwolf. Jadis, on entendait dire de bien des hommes, la chose n'était pas rare, qu'ils étaient devenus loups-garous, et vivait dans les bois. Le loup-garou est une bête féroce. Tant qu'il est dans cet état de sauvagerie, il dévore les hommes, répand le malheur autour de lui, séjourne et vagabonde dans les grandes forêts. Je laisse là ce propos. C'est l'histoire du bisclavret que je veux vous raconter.
Alors, après avoir défini ce qu'est un loup-garou dans une proposition qui cristallise tous les topoi ordinairement associés à la lycanthropie, la narratrice imprime, comme on vient de l'entendre, une bifurcation radicale à son propos, indiquant qu'elle va parler d'autre chose. C'est à faire les orques ST, d'Albis Claveret, Bouvel, Comté. Cette autre affaire de métamorphose qui s'intéresse moins au processus même de transformation de l'homme en animal qu'à l'inquiétante porosité des deux natures nécessite l'emploi d'un autre nom pour désigner le loup-garou. Au lieu de l'anglo-normand Garwolf, Marie choisit ainsi délibérément le breton bisclavret, terme qui, dans le lait, apparaît à la fois comme un nom commun et comme le nom propre du héros. L'étrangeté de ce nom dans un texte composé en anglo-normand, un dialecte du français, signale ainsi littéralement et visuellement l'étrangeté du sujet du lait. Elle en signale également le caractère fondamentalement opaque. Les laits de Marie se présentent en effet, on l'a vu au début dans le prologue qu'elle donne à son recueil, comme des traductions du breton en français. Choisir de ne pas traduire le nom d'esclavret, c'est aussi indiquer dans et par la langue même, que ce dont il est ici question résiste à l'assimilation, malgré le dénouement final qui rend le chevalier à son humanité et à son suzerain, le roi ours du monde arthurien.
Le roi réclame les vêtements. Que cela plaise ou non à la dame, il ordonne qu'on les rapporte et qu'on les donne au loup-garou. Lorsqu'on les déposa devant lui, il ne leur prêta aucune espèce d'attention. L'homme avisé qu'il avait déjà conseillé interpella alors le roi. « Sire, vous n'agissez pas comme il faut. Pour rien au monde, cet animal n'endosserait ses vêtements ni ne se déferait de son apparence de bête devant vous. Vous ignorez ce qu'il lui en coûte. Il en éprouve une immense honte. Faites-le conduire dans vos appartements et faites apporter ses vêtements en même temps. Nous l'y laisserons un bon moment. Nous verrons bien s'il reprend forme humaine. » Le roi en personne l'y conduisit et ferma toutes les portes sur lui. Il y revint un peu plus tard, accompagné de deux seigneurs. Tous trois entrent dans la chambre. Sur le propre lit du roi, ils trouvent le chevalier endormi. Le roi court le prendre dans ses bras. Plus de 100 fois, il se jette à son cou et l'embrasse. Dès qu'il fut remis, il lui rendit tous ses domaines. Il lui fit encore plus de dons que ce que j'en rapporte. Il bannit la femme. Elle fut chassée de la contrée. Elle s'en alla avec celui pour lequel elle avait trahi son mari. Elle en eut de nombreux enfants. On les reconnut depuis lors aisément, à leur apparence et à leur visage. Bien des femmes de ce lignage, c'est la vérité, sont nées et ont vécu sans nez. L'histoire que vous venez d'entendre est vraie, n'en doutez pas. De l'histoire de Bisclavret, on fit un lait pour marquer les mémoires à jamais.
Bah, espérons que la lecture de Marie de France, en nous épargnant la peur de l'étrangeté, nous aidera, à l'inverse de l'épouse de Bisclavret, à préserver, disons, notre intégrité. Voilà.